Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com, mais également sur le site d'Expat pour nos amis expatriés au travers le monde. Voilà, je reçois aujourd'hui le professeur Gérard Lucotte qui, avec son ami Philippe Bornet, ont écrit un excellent livre sur Napoléon. Qui a tué Napoléon ? 10 enquêtes scientifiques au secours de l'histoire aux éditions Max Milo. Un livre très très intéressant qui se lit même, je peux le dire, comme un livre policier. Cher professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter donc à nos auditeurs ?
Bon, alors je me présente, donc je suis Gérard Lucotte, je suis professeur de génétique à la retraite. Et je dirige le laboratoire d'anthropologie génétique moléculaire, qui est dans lequel j'ai fait notamment ces études sur Napoléon.
Tout à fait. Tout à fait. Et donc, vous avez mis, comme je l'ai dit, vous avez mis 12 ans à écrire ce livre, notamment, je crois, par rapport à des... pour récupérer des données ADN de la famille Bonaparte et de Napoléon en particulier.
C'est ça. Non, j'ai pas mis 12 ans pour écrire le livre.
Oui, oui.
12 ans, c'est la durée des travaux qui ont permis de faire le livre.
Les recherches.
En moins d'un an. Voilà.
Donc, là-dessus, vous avez. Il y a plein de collectionneurs, je suppose, et même peut-être la famille, qui vous ont fourni du matériel ADN.
Alors, le matériel pour extraire l'ADN.
Oui, tout à fait.
Alors, le matériel, je l'ai obtenu d'une part par la directrice du musée de Châteauroux, dont je donne le nom et les détails dans mon livre, et également par un collectionneur belge, dont je parle également de façon détaillée dans le livre. Qui est un des principaux, ce collectionneur qui est un des principaux dépositaires des restes de Napoléon Ier.
Et donc, vous avez parlé de plein de choses, notamment de quoi est mort Napoléon. Et on remarque dans votre livre que les médecins qui du 19e ont fait un bon travail, un très bon travail. Est-ce que ça vous a facilité justement leur travail? Est-ce que cela a facilité vos recherches par rapport à l'ADN que vous avez récupéré?
Les médecins anglais et français, ainsi que de Napoléon Ier, ont décrit de façon détaillée l'autopsie de Napoléon Ier.
Tout à fait.
Alors, ça c'est une première chose. Et récemment, au cours du 20e, il y a un médecin anglais qui a récupéré des portions de l'intestin de Napoléon Ier. Malheureusement, ces portions d'intestin ont été détruites lors du Blitz, c'est-à-dire du bombardement de Londres
en 1940.
Par les Allemands lors de la dernière guerre mondiale. Il n'a pas été possible d'obtenir cet échantillon qui a été détruit ou qui a disparu. Les recherches ont porté sur d'autres échantillons que celui-là.
D'accord. Et au niveau des échantillons, vous avez eu des cheveux, vous avez eu peut-être des résidus de la peau, vous avez eu...
Alors j'ai eu diverses choses, j'ai eu des cheveux, bien entendu, j'ai eu un morceau d'épiderme, un morceau de peau, sur lequel j'ai fait également
des recherches.
Des recherches ADN. Et j'ai eu aussi divers autres échantillons de cheveux et de restes corporels.
Et qu'est-ce qui vous a, justement, j'aimerais revenir là-dessus, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire justement sur qui a tué Napoléon et ces 10 enquêtes, ces 10 mystères entre guillemets sur Napoléon?
Bon, le livre a été écrit récemment. Bon.
Oui.
Mais mon intérêt initial pour Napoléon a été déclenché par une réunion qui a eu lieu à l'hôtel Lutetia. Il y a une douzaine d'années, dont je parle dans le livre.
Tout à fait.
Et à Paris, où étaient réunis l'aéropage des principaux acteurs napoléoniens, en quelque sorte, et en particulier les descendants Charles et Sophie du prince Jérôme. Jérôme étant le plus jeune frère de Napoléon Ier. Yeah. Et ses descendants avaient donc l'intention d'éclaircir un premier mystère, celui de la disparition éventuelle du corps de Napoléon Ier.
Oui.
Et ils m'ont désigné, à l'occasion de cette réunion, ils m'ont désigné donc pour étudier des échantillons pour faire l'ADN d'échantillons futurs que j'aurais dû obtenir donc dans le futur, postérieurement à cette réunion, je veux dire.
Oui.
Sur Napoléon, voilà. C'est comme ça qu'a été donc déclenché mon intérêt sur Napoléon.
Tout à fait. C'est justement pour lever le voile sur toutes les mystères et sur toutes les légendes autour de son corps, de sa disparition et de son décès, à quoi il a été dû. Parce qu'on a entendu effectivement tout et n'importe quoi depuis le 19e siècle.
Oui.
Donc, si vous voulez, c'est comme on entendait, vous avez un petit peu, comme on dit si bien, remis l'église au milieu du village, quoi, avec toutes vos recherches.
J'ai essayé.
Parce qu'en fait, bon, je dis, il dit 10 enquêtes, mais en fait, il y a 12 chapitres dans votre livre. Parce que le premier, d'ailleurs, c'est une première légende, c'est que le corps de Napoléon est à l'abbaye de Westminster. Et la première question, donc, c'est qui serait aux Invalides? Là, vous y répondez. Bon, en ce qui concerne la mort, par rapport, il y en a beaucoup qui parlent d'intoxication à l'arsenic. Ou d'empoisonnement. Et donc, vous avez parlé, je prends des exemples sur les chapitres, hein, nous sommes bien d'accord. C'est comme la génétique aussi, Napoléon qui se reconnaissait comme français, était-il aussi génétiquement italien, corse ou autre, ça vous y répondez également dans le livre. Et c'est très intéressant toutes ces parties. Et c'est là où Napoléon III, on a bien vu que Louis Bonaparte, époux d'Hortense de Beauharnais, il ne faut pas l'oublier. En fait, c'était Louis Bonaparte, son père, qui n'était pas le fils du père de son père, mais que Laetitia, la mère de Napoléon, avait fauté à un moment donné. Ce que vous expliquez très très bien dans le livre.
ans.
Voilà.
Bon, premier. Et donc, lorsque j'ai fait celui de Napoléon III, eh bien, il est totalement différent. Donc, ça prouve qu'ils n'ont pas de lien de parenté. Alors, ce profil Y, du coup, ADN Y de Napoléon III, vient de son père,
Oui, tout à fait.
du véritable père de Napoléon III, qui n'est pas, comme on le croit, qui n'est pas, enfin, qui est plus exactement Louis, donc Louis est le père de Napoléon III. Alors, se poser donc la question, de l'origine, c'est comme en mathématiques, il y a deux solutions et deux seulement. Soit la mère de Napoléon III a fauté, c'est-à-dire couché avec un autre homme que son mari.
Oui, tout à fait.
Soit, bon, cette dame s'appelle la princesse Hortense. Soit c'est la mère de Laetitia, c'est la mère de Napoléon, c'est-à-dire Napoléon, Laetitia, la mère de Napoléon, qui a fauté. Bon, alors, contre toute attente, je suis même certain que c'est Laetitia, donc la mère, qui a fauté à cette occasion.
D'accord.
Je tout ça expliqué en détail dans le dans le l'un des derniers chapitres du livre.
Tout à fait. Un chapitre très, très, très intéressant, comme tous les autres, parce que vous avez fait des recherches quand même très, très poussées. On va faire une page musicale. Et vous avez choisi pour cette émission de nous faire écouter la symphonie numéro 9 en ré mineur, l'opus 125 pour grand orchestre de Beethoven, l'hymne à la joie, aussi appelé l'hymne à la joie. Donc on va écouter dans cette première partie l'Allegro ma non troppo, un poco ma maestoso, si, excusez-moi ma prononciation. Voilà, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. De retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com. Je suis aujourd'hui avec le professeur Gérard Lucotte qui a écrit avec son ami Philippe Borné « Qui a tué Napoléon ?» 10 enquêtes, moi je dirais 12 parce que c'est en 12 chapitres. 10 enquêtes scientifiques au secours de l'histoire. C'est très très intéressant. Il y a plein de légendes qui tombent les unes après les autres grâce aux outils actuels en termes d'ADN. Et vraiment, le travail a été fait minutieusement et c'est vraiment que des découvertes. Et je recommande ce livre. Donc, Monsieur Lucotte, concernant qui a tué Napoléon, est-ce que vous avez été étonné de certaines réponses que l'ADN vous a données ? Que vos recherches ont donné?
Ben, l'ADN ne m'a pas apporté de données sur cette question-là. Les données que j'ai, les résultats que j'ai obtenus, c'est qu'il était, à partir du fragment de tendon, que j'ai obtenu par un collectionneur américain. Bon, en fait, le fragment de tendon de Napoléon, j'ai déterminé qu'il était porteur, enfin, il avait l'hépatite B, le virus d'hépatite B.
Oui.
Qui, selon moi, est la cause de la mort, l'une des causes principales de la mort de Napoléon Ier à Sainte-Hélène. Voilà.
Tout à fait. Tout à fait.
Donc, il n'y a pas de responsable nommément, si vous
voulez. Oui.
C'est des conditions insalubres de l'île, où l'hépatite sévissait. Il faisait beaucoup de morts, y compris par les soldats anglais de la garnison, qui étaient sur place. Bon, c'est par ce virus qu'il est mort, principalement. Parce qu'il y avait, d'autres maladies et infections qui étaient très graves. Enfin, c'est principalement de ça qu'il est mort, selon moi. Il n'y a pas de responsable nommé, simplement, c'est pas donc qui. C'est pas qui a tué Napoléon, c'est de quoi est mort Napoléon. Alors, Napoléon, selon moi, est mort de l'hépatite B.
D'accord. Oui, tout à fait. Vous l'expliquez. Vous l'expliquez très bien dans ce livre, comme beaucoup de notamment s'il était français, comme il le disait, ou italien, corse ou autre. Vous avez réussi à trouver à peu près ces lointains ancêtres. Les ancêtres des Bonaparte, quoi.
Alors, les lointains ancêtres paternels de Napoléon sont au Moyen-Orient, ce qui est très surprenant.
Oui, tout à fait.
Ce qui est très surprenant. Et les ancêtres les plus récents sont à la petite ville de Sardane, qui est une ville de Toscane,
oui,
qui est le foyer donc, des Napoléon, de la famille de
Bonaparte.
Napoléon.
Tout à fait.
Des ancêtres moins lointains de Napoléon. Voilà. À partir de Sarzane, il y a un de ses ancêtres qui est venu en Corse. Et donc, et ensuite, voilà.
Alors, il y a différents points forts dans ce livre, comme j'ai et vous le soulignez, et notamment il y a encore aujourd'hui plein de questions qui relèvent à débat. Et vous, ce livre, c'est surtout, il éclaire plein de questionnements, même de légendes, vraies ou fausses, au public, et grâce à une démarche uniquement scientifique. Alors, j'ai apprécié également aussi la préface de Jean Tullard. Jean Tullard, vous l'avez rencontré, il a accepté de faire la préface assez rapidement ou pas ?
Oui. Donc, je connais le professeur Tullard depuis très longtemps et je suis avec intérêt mes travaux sur la BN de Napoléon. Et il a bien voulu faire une préface à ce livre, ce dont je le remercie. Et il a expliqué en particulier que pour ce qui concernait l'histoire de Napoléon, eh bien, Clio, la muse de l'histoire, ne suffisait pas, et que maintenant il fallait avoir affaire à la génétique. Je remercie le professeur Tullard de cette préface très circonstanciée.
Tout à fait. Mais bon, ce travail énorme, vous l'avez effectué tout seul ou vous aviez différents collaborateurs?
J'ai différents collaborateurs que je cite dans mes articles
tout
originaux,
à fait.
Publiés donc en anglais, tous en anglais. Pour ce qui concerne la microscopie électronique, des travaux en microscopie électronique. Et pour ce qui concerne les recherches chirurgienne à proprement parler.
Mais
Donc
vous
les collaborateurs qui ont fait avec moi ces travaux sont cités dans les articles des scientifiques dont je donne référence dans les livres.
Parce qu'on pourrait également signaler que vous n'avez pas travaillé que sur Napoléon, vous avez aussi travaillé
Oui, j'ai trouvé sur beaucoup d'autres sujets.
d'autres sujets, si vous voulez en parler,
Et
notamment
non,
sur.
non, 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 j'en parle pas, j'en parle pas, c'est trop long. Là, on se concentre sur Napoléon, qui est déjà pas mal. Donc, j'ai travaillé sur beaucoup d'autres sujets, en particulier sur les reliques du Christ.
Tout à fait, tout à fait. Et aussi sur la parentalité, la parenté entre Louis XVI et Naundorff.
Oui, également, j'ai travaillé sur le mystère le
Louis
mystère de
XVII.
Louis XVII.
Ouais,
Voilà.
de Louis XVII. Travail que j'aime, que j'avoue franchement, après avoir lu Qui a tué Napoléon, m'intéresse maintenant hautement. Vous m'avez levé des doutes. donc, ce qui est intéressant dans ce livre, ça c'est pour mes auditeurs que je le dis, c'est que vous nous guidez, vous nous guidez, vous nous prenez la main dès le début et rapidement on est happé par. Par votre écriture avec Philippe Bornet, vous happez le lecteur et on tombe parfois des nues, hein, comme j'ai dit pour Napoléon III, mais aussi vous apportez comment on peut dire, des précisions comme les origines de Napoléon qui viennent du Moyen-Orient ou de Toscane. Vous parlez de ça avec grande précision et grande passion. Ce travail historien biologique, on va dire, est-ce que c'est un nouveau métier?
L'ADN, c'est pas un nouveau métier, c'est
Oui,
le
tout à
métier
fait.
du généticien. Et la microscopie électronique, bon, c'est une technique qui a été utilisée depuis une vingtaine d'années maintenant, on va dire, ce sujet qui permet un microscope électronique à balayage, genre ça. Ça permet
D'accord.
de voir la surface des objets qu'on a étudiés, des micro-objets qu'on a étudiés. Et ça, c'est très utilisé, cette technique de microscopie en bas, électronique à balayage, elle est très utilisée depuis une vingtaine d'années déjà. Donc ce sont des métiers, effectivement.
D'accord. Alors, il y a un chapitre qui est entre nous qui est très très prenant. C'est le chapitre qui reprend jour après jour et voire presque heure après heure, alors que l'agonie a duré 50 jours, je crois, de mémoire, son agonie, avec les témoignages des présents et c'est très émouvant et c'est très émouvant. Et on se pose la question que les geôliers anglais ont franchement tout fait pour que Napoléon décède rapidement, il soit débarrassé de Napoléon, quoi.
Je ne dirais pas les choses ainsi, non. Non, 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 non. Je ne dirais pas les choses ainsi. Pas. Certes, Hudson Lowe, qui était donc le gouverneur de l'île, et Napoléon Ier ne s'entendaient pas du tout, mais la mort n'a pas été hâtée, la mort est survenue, comme vous le disiez, à la suite de l'infection par
Par
les
l'hépatite.
hépatites, comme je vous disais tout à l'heure.
Tout à fait, mais il a eu quand même, vous le citez en chapitre, l'agonie quand même a duré assez longtemps. Assez longtemps. Donc voilà, mais qu'est-ce que je veux dire d'autre avant la page musicale? C'est intéressant aussi Parce que bon, j'ai pris quand même quelques notes qui sont intéressantes. Qu'est-ce qu'en ont pensé les descendants de Jérôme Bonaparte de toutes vos recherches? Ils ne sont pas terminés d'ailleurs.
Initialement, c'est eux qui les ont déclenchés. Hein.
Oui, tout à fait.
C'est eux qui les ont financés, enfin, la sœur, Sophie, en partie, qui a financé, donc pour que le travail poursuive. Et bon, ils sont au courant des résultats, de l'ensemble des résultats que j'ai obtenus, bien entendu.
Tout à fait. Il y a même ce qui est assez improbable. Franchement, je ne pensais pas. Vous avez aussi le pénis de Napoléon.
Oui, alors ça, c'est une autre légende. En fait, un
Voilà.
fragment de en fait, un fragment de tendon. C'est pas un pénis, c'est un fragment de tendon ou de muscle, le tendon, le cartilage, voilà, plutôt de tendon. Et donc, ce n'est pas un pénis. Alors ça, je l'ai eu par un collectionneur américain qui me l'a envoyé, qui m'a demandé donc de l'étudier de près, ce que j'ai fait. Et donc, c'est un fragment de tendon et de pas un pénis, mais par contre,
De
de
Napoléon.
Napoléon, c'est-à-dire un tendon de
D'accord.
Napoléon qui a été prélevé lors de l'autopsie par le docteur Anto Barquet.
D'accord. D'accord. Eh bien, on va faire une deuxième page musicale. Alors, c'est toujours la symphonie numéro 9 à la joie de Beethoven. On va écouter le Molio Vivace. Qui est la deuxième partie, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. Thank you. de retour dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com en DAB, et mais également sur le site Expat, sur la radio pour les, qui est dédiée à nos expatriés français et francophones du monde entier. Donc je leur passe un petit coucou, parce que ça va de, du Japon à Tahiti, en passant par la Réunion, Madagascar, voire des gens qui sont dans l'armée, etc. Ça, je leur passe un petit coucou tant que j'y suis. Donc je suis toujours avec le professeur Gérard Lucotte, pour le livre « Qui a tué Napoléon ? 10 enquêtes scientifiques au secours de l'histoire » qui nous parle de ses recherches par rapport à l'ADN, des ADN qu'il a récupérés. Donc, vous avez mené donc, plusieurs tests ADN-PCR sur le chromosome Y, comme vous l'avez expliqué, et cela de différentes façons. Sur Napoléon, mais également sur les descendants contemporains de la famille Bonaparte, hein, c'est ça ?
Oui.
Des descendants de Jérôme, du coup. Et sur le comte Valeski, descendant de Marie Valeska, ce que l'on pourrait appeler...
Alors, son... le comte Valeski est donc le cinquième comte, descendant de Marie Valeska, enfin des amours de Napoléon Ier et de Marie Valeska qui sont bien connus. Bon.
Voilà.
Et ce monsieur était très inquiet parce que, bon, il n'avait pas vu la reconnaissance officielle de son ascendance par l'administration. Deuxièmement, il était très inquiet du fait que, le fils, donc le premier comte Valeski,
oui.
Le fils de Napoléon et de Marie Valeska, avait comme partenaire la comédienne Rachel.
Oui. Bon,
les comédiennes à l'époque, tout comme maintenant, peut-être un peu, avaient la réputation d'être légères. Donc, il se demandait si le fils qu'il avait eu était réellement de lui.
Oui.
Bon. Voilà. Et alors, ce que j'ai réussi à déterminer, donc, le comte Valeski, donc j'ai étudié le profil ADN complet, profil YADN complet, a un profil YADN très voisin, pratiquement identique, à celui de Napoléon Ier. Donc, le comte a été rassuré. Il a financé d'ailleurs une bonne partie des travaux de l'ensemble des travaux que je cite dans mon livre.
Tout à fait.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà pour ce qui concerne le comte Valeski.
Tout à fait. Et j'ai une question toute bête. On sait que Napoléon, la famille Bonaparte, et même un descendant de la famille Bonaparte, pas de Napoléon, a créé le FBI aux États-Unis. Est-ce que vous avez eu des interactions avec ses descendants ?
Oui, alors il s'agit de Lucien.
Oui.
De Lucien, et Lucien a comme lointain descendant un certain Mike Cruvis, sur lequel je consacre un chapitre
tout à fait
entier de mon livre. Mmh. Et c'est pareil, Mike Clovis donc m'a envoyé son sang, à partir duquel j'ai fait son profil YADN, et ce profil est très voisin, pratiquement identique à celui de Napoléon Ier.
D'accord. Il y a que Laetitia qui a fauté par rapport à Lucien.
Par rapport à Louis.
C'est vrai que...
Par rapport à Louis. C'est mon hypothèse, mais elle est vraisemblable.
Elle est vraisemblable. Et oui, vous l'expliquez très très bien dans le livre. Votre livre a été vraiment soutenu par toute la famille ou tous les descendants ou supposés descendants de Napoléon et de la famille de
Absolument,
Bonaparte.
absolument.
Et donc
C'est
ça.
eux qui ont financé ce travail. Il est un travail très, très onéreux parce que le microscope électronique, je passe pas, je l'ai pas ça dans mon laboratoire. J'ai 10 heures d'utilisation de microscope électronique que
Oui,
je
tout
paye,
à fait.
donc c'est un élevé comme frais. C'est des euros, une centaine d'euros par heure, à l'heure. J'ai
Oui.
passé plusieurs dizaines d'heures. Et donc, ce travail a été onéreux et financé par. De même que le travail ADN aussi. Le travail sur les profils Y-ADN ont été financés par les différents membres
De la famille.
de la famille, absolument.
Et les collectionneurs n'ont pas participé à à tout ça?
Ben, les collectionneurs ont participé en donnant de leurs avions. Il s'agit principalement du collectionneur belge. Il a
Oui,
participé
tout à fait.
en fournissant des échantillons de cheveux de Napoléon Ier et de Napoléon III, ainsi d'ailleurs que des cheveux du fils de Napoléon III. Et pour ce qui concerne l'échantillon de lit de pénis, qui est en fait est un tendon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Cette recherche a été financée par le collectionneur américain qui m'a envoyé des échantillons. Voilà.
Donc vous avez eu des
Des
échantillons
soutiens financiers.
à ADN du monde entier, du coup.
J'ai obtenu des échantillons, l'ADN, c'est moi qui l'ai déterminé, du monde entier. Et ces travaux de microscope électronique et d'ADN ont été financés comme je le disais, par certains des descendants de Napoléon,
Oui.
de la famille de Napoléon, et également par des collectionneurs privés.
D'accord. Et du coup, les retours de vos financeurs, ils en ont
Ah
pensé, ils
oui,
sont.
ils sont très heureux. Ils sont ravis. Bon, le comte Walewski est ravi, comme vous le savez,
Oui.
comme je viens de vous dire. Le collectionneur américain est également ravi. Il va confier d'autres travaux. Voilà. Donc tout le monde est très content.
Tout le monde est content. Et est-ce qu'ils ont lu le livre?
Ils ont eu le livre, absolument. Ils ont eu et lu le livre, absolument.
D'accord. Ils ont tous ils ont tous été dans la même direction et acclamé, dirons-nous, ce livre et ses travaux, ce qui est rare de mettre tout le monde d'accord en fait avec les histoires d'ADN. Non?
Oui, c'est vrai.
C'est assez rare parce que de la mort de Napoléon jusqu'à Napoléon III et son fils, vous avez quand même une large marge de manœuvre.
Absolument.
On va faire une troisième page musicale. Alors, on suit donc toujours la symphonie numéro 9 de Beethoven, l'Ode à la joie. Et là, on va écouter l'Adagio molto et cantabile. Voilà, et on se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. À tout de suite. Vous êtes toujours dans le Café des Amis sur RTF 95.4 ou sur www.rtflimoges.com, mais également sur le DAB et sur le site et la radio d'Expat pour nos amis expatriés français au travers le monde. Et je reçois donc aujourd'hui le professeur Gérard Lucotte qui nous parle de son livre coécrit avec Philippe Bornet, Qui a tué Napoléon ? 10 enquêtes scientifiques au secours de l'histoire, plébiscité par tous les collectionneurs, tous les passionnés de Napoléon et par sa famille, ce qui, on peut dire, est assez rare. Cher professeur, est-ce que sur quoi travaillez-vous maintenant? Vous travaillez toujours sur Napoléon? Est-ce que vous avez...
Je travaille toujours sur Napoléon, sur deux sujets principalement. Le premier, c'est celui de la prédisposition au cancer de l'estomac. Vous savez que son père est mort. Le père de Napoléon, c'était... le père de Napoléon est mort d'un cancer de l'estomac. Et Napoléon lui-même avait très peur pour son fils, Léon, C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il avait fait une autopsie par le docteur Dombarty son estomac. Et d'autre part, troisièmement, il y a une sœur, Elisa, une sœur de Napoléon qui est morte également de cancer de
De
l'estomac. Donc
l'histoire.
il existe peut-être, probablement chez Napoléon Ier, donc une prédisposition génétique au cancer de l'estomac. Alors je suis en train d'étudier ça en collaboration avec une équipe internationale qui est spécialisée justement dans l'ADN, dans les gènes qui interviennent dans le cancer de l'estomac et dans le cancer de l'œsophage. Voilà, ça c'est un premier sujet.
D'accord.
Deuxième sujet, c'est un immense sujet que je vais bien entendu pas traiter tout seul. Il s'agit de faire de la génomique de Napoléon, c'est-à-dire d'étudier tout son génome, comme on l'a fait pour l'ADN humain il y a une dizaine d'années. Donc, il s'agit de séquencer tout son génome. Pour l'instant, j'ai simplement étudié certains gènes de Napoléon.
Tout à fait.
Là, il s'agit donc d'études de faire la génomique, c'est-à-dire d'étudier la séquence de tout son génome. Alors, pour cela, il y a un projet qui est en cours également, international, avec des dizaines de chercheurs qui vont travailler sous ma direction sur ce sujet. Voilà les deux principaux sujets actuels.
Ça va prendre du temps.
Ça va prendre du temps. J'espère les mener à bien.
Non, mais je l'espère pour vous parce que et il y aura sûrement un livre dans la foulée, non?
Ah ben, probablement. Je sais pas, pour l'instant, nous sommes attend de voir les ventes du premier, qui sont excellentes d'ailleurs, selon les échos qu'on a, parce qu'il est prévu, il y a plus d'un an
Ben, faut dire que
maintenant.
c'est un livre qui sort de l'ordinaire, hein.
Donc, il marche bien, en termes d'éditeur, ça marche bien. Ça marche bien, c'est-à-dire que l'éditeur arrive à faire de l'argent avec, voilà, en gros.
Donc, si l'éditeur gagne de l'argent, tout va bien.
Tout va bien.
Et après, il va vous harceler pour écrire ce que vous êtes en train de rechercher actuellement.
Absolument, mais on verra ça plus tard.
On
Voilà.
verra ça plus tard. Et vous travaillez uniquement sur Napoléon? Vous n'avez pas d'autres projets en parallèle?
Non, non, il y a d'autres projets en parallèle, en particulier l'étude sur des échantillons que j'ai obtenus du suaire de Turin, le suaire de Turin, le suaire du
Tout
Christ,
à
si vous
fait.
voulez. Alors là, je mène une gigantesque étude. J'ai publié déjà une quinzaine de fois dans des articles scientifiques. Sur un échantillon que j'ai eu d'ailleurs beaucoup de mal à obtenir, vous imaginez, un
Oui.
échantillon authentique du suaire de Turin.
D'accord.
Donc je suis très occupé.
Ah oui, je vois ça. Pour nos auditeurs, une journée du professeur Lucotte sur ses recherches, ça prend combien de temps?
Je comprends pas votre question.
Sur une journée,
Oui.
vous passez combien de temps à
Sur les
faire vos
recherches dans le
recherches?
sens, ben comme quand j'étais en activité, c'est-à-dire 8 heures à peu près. 8 heures
D'accord.
par jour.
Vous travaillez 8 heures par jour pour lever le voile sur des mystères de l'histoire, quoi.
Absolument.
Mais
Absolument.
je vais vous poser une question toute bête. Est-ce que, par exemple, des affaires criminelles, est-ce que certains sont venus vous toquer pour, par exemple, pour une affaire criminelle ou une descendance jugée
Alors, sur les affaires criminelles, non, parce que vous savez qu'il y a un excellent service
à Lyon? Oui.
de police scientifique. Non, c'est pas Lyon, il était à Paris, à la rue
Il
Pontoise.
y en a à Lyon aussi.
Il y en a un à Lyon, mais celui de Cergy Pontoise est spécialisé dans les enquêtes criminelles, justement, par l'ADN, par d'autres méthodes. Par contre, il y a une quinzaine d'années, j'ai été sollicité pour la succession de Dumontant, vous savez,
Ah
pour
oui, tout à fait.
la fille de la
Aurore.
fille putative
De Yves Montand, oui.
de Dumontant. Je peux vous dire que c'est bien sa fille, contrairement à ce qu'on a affirmé et dit et redit par la justice, etc. C'est bien sa fille. Voilà.
Alors pourquoi dans les médias et la famille Montand disent que en fait ont été déboutés par rapport
La
à
justice s'est prononcée en défaveur de la fille.
Oui, tout à fait. Mais
Bon,
si l'ADN
oui.
correspondait.
Ainsi s'écrit l'histoire. Ainsi s'écrit la génétique. Bon, Madame Dansart et sa fille, Aurore Dansart, ont été déboutées donc, par la justice. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
C'est
Donc,
complètement.
faudrait éventuellement revenir là-dessus.
Oui, surtout qu'ils ont été déboutés alors que l'ADN et on justifie que c'est son père. Alors c'est ça qui est dingue. Une affaire de gros
Et
sous.
à l'époque où la génétique n'était pas développée comme elle l'est aujourd'hui,
Oui.
pour arriver à ce degré de finesse, si vous voulez. Donc, c'est normal que la justice de l'époque ait débouté au vu des résultats qu'il y avait à l'époque,
Oui,
le résultat ADN de l'époque.
ouais, au jour d'aujourd'hui, ça risquerait d'être dit complètement différent.
Absolument.
Ça, après, c'est à sa fille et à sa mère de poser une autre d'ouvrir une autre plainte pour avoir
Absolument, absolument, absolument.
parce que je sais que les scellés ils gardent l'ADN pour les affaires comme ça.
Il y a des scellés quelque part qui permettraient de revenir sur cette question, effectivement.
Écoutez, moi je vous remercie d'avoir passé cette heure
Oui, je
parmi
vous en
nous.
prie.
Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose à nos auditeurs?
Limoges est très cher à mon cœur.
Ah oui?
J'aime beaucoup cette ville. Oui, j'aime beaucoup cette ville. Et les parents de ma mère étaient originaires de cette région. Enfin, pas directement, mais de Périgueux.
C'est pas très loin.
C'est pas très loin, Périgueux.
Oui, c'est à 1 heure.
Alors donc, j'aime beaucoup Limoges et sa porcelaine.
Eh bien, écoutez, ce serait avec plaisir de vous recevoir en Limousin pour venir parler, voire animer une conférence sur Napoléon. Je sais qu'il y a des cercles napoléonistes dans la région. Ça pourrait être intéressant. Ça serait intéressant. Et
Effectivement.
moi, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai de visu. Et ça serait super si vous venez avec Philippe Bornet que je connais depuis assez longtemps,
Oui.
que j'avais interviewé pour un livre qu'il avait écrit il y a quelques années déjà, et avec qui on avait bien sympathisé. Vous lui passerez d'ailleurs le bonjour.
Je
Je serais bien le bonjour. Et donc, écoutez, j'attends avec impatience la suite de vos travaux.
passerai,
Hein?
je ne passerai pas. Mais bien, écoutez, ça va
Parce que j'ai vraiment. Je suis pas comment dire, un inconditionnel de Napoléon Bonaparte. Mais par contre, ce genre de livre permet d'avoir un éclairage historique très intéressant et aussi d'enlever plein plein de légendes ou de fausses affirmations qu'on peut avoir au travers le temps et les histoires et les bouches à oreille. C'est mon
C'est
avis.
parfait. Voilà.
Je vous remercie beaucoup et on va terminer donc cette programmation musicale avec la fin, peut-être la plus connue, de la 9e symphonie de Beethoven, avec le Presto Allegro assai, où on va entendre l'hymne européen, l'hymne à la joie. Voilà. Eh bien, écoutez,
Bon, écoutez, je vous salue et je vous remercie de cette interview.
Eh bien, moi également,
Voilà.
j'ai beaucoup apprécié votre venue dans cette émission et j'espère que on se retrouvera pour le prochain livre que vous allez écrire, enfin la suite de Qui a tué Napoléon et pourquoi pas pour un autre ouvrage que vous allez écrire.
Entendez. Entendez.
Merci
Alors, au
beaucoup.
revoir. Au
Au
revoir, monsieur.
revoir.
Merci.
Thank you. Thank you. Thank you.